Chapitre 70, la critique négative. Les conséquences de la critique, nos corps sont faits de ce que nous mangeons et buvons, et la valeur de notre expérience spirituelle dépend de ce dont nos esprits se nourrissent et de ce qu'ils assimilent. En s'absentissant continuellement sur les erreurs et les défauts des autres, nombreux sont ceux qui deviennent des dyspeptiques au sens spirituel du terme. Le Seigneur nous adresse cette exhortation, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Mais ceux qui s'efforcent de disséquer les paroles et les actes des autres pour y découvrir tout ce qui est critiquable ne peuvent pas discerner les choses bonnes et agréables. Ils ne prennent pas une nourriture apte à favoriser la vitalité spirituelle et une saine croissance. Amour et respect mutuel, si nous donnons la première place dans nos souvenirs aux injustices et aux actions peu aimables dont nous avons été victimes de la part de nos semblables, il nous sera impossible de les aimer comme Jésus-Christ nous a aimés. Mais si nos pensées s'arrêtent sur l'amour merveilleux et sur la compassion de Jésus à notre égard, notre attitude envers les autres sera différente. Nous devons nous aimer et nous respecter mutuellement, malgré les fautes et les imperfections qu'il est impossible de ne pas voir. C'est en cultivant l'humilité et en se méfiant du moi que sera extirpé tout égoïsme étroit et que nous deviendrons magnanimes et généreux. Un monde irréel et imaginaire, vous pouvez bâtir dans votre esprit un monde irréel, et imaginer une église idéale, où les tentations de Satan n'inciteront plus à faire le mal, mais la perfection existe seulement dans votre imagination. Notre monde est un monde déchu, et l'église est illustrée par un champ dans lequel croissent l'ivraie et le blé. Ces derniers doivent croître ensemble jusqu'à la moisson. Il ne nous appartient pas d'arracher l'ivraie, à la lumière de la sagesse humaine, de peur que, sous l'inspiration de Satan, le blé ne soit lui-même arraché parce qu'on l'aurait pris pour de l'ivraie. La sagesse d'en haut sera donnée à celui qui est doux et humble de cœur, et cette sagesse ne le conduira pas à détruire mais à édifier le peuple de Dieu. Rétablir et guérir, nous devons regarder les fautes des autres non pour les condamner, mais pour les guérir. Veillez et priez, allez de l'avant et vers le haut, vous pénétrant de plus en plus de l'Esprit de Jésus, et le répandant le long des eaux. Satan incite à la critique, le moi a toujours une haute estime de lui-même. Lorsque les hommes perdent leur premier amour, ils ne gardent pas les commandements de Dieu et commencent à se critiquer les uns les autres. Cet état d'esprit visera constamment à dominer jusqu'à la fin des temps. Satan s'efforce de développer ce comportement afin que dans leur ignorance les frères cherchent à s'entre-déchirer. Dieu n'en est pas glorifié, mais il en est grandement déshonoré, et son esprit est attristé. Satan exulte car il sait que s'il peut inciter les frères à ses pieds les uns les autres dans l'église et dans le ministère, certains finiront par être démoralisés et découragés au point d'abandonner leur poste. Ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. Une puissance d'en bas agit dans l'esprit et dans l'âme pour introduire ses attributs, diaboliques, là où devraient régner les attributs du Christ. Pourquoi l'Église est faible? Plusieurs de ceux qui prétendent se rallier à Jésus-Christ ne font, en réalité, que s'en écarter. C'est la raison pour laquelle l'Église est si faible. Beaucoup se laissent aller facilement à la critique et à la censure. En exprimant la suspicion, la jalousie et le mécontentement, ils deviennent eux-mêmes les agents de Satan. Ainsi donc, la frivolité, le laisser-aller et l'indifférence des prétendus chrétiens détournent bien des êtres du sentier de la vie. Une puissance illimitée, le Seigneur sait que si nous regardons à l'homme, si nous nous confions en l'homme, nous nous appuyons sur un bras de chair. Dieu sollicite notre confiance. Sa puissance est illimitée. Pensez au Seigneur Jésus, à ses mérites et à son amour. N'essayez pas de détecter les défauts des autres et ne vous absentissez pas sur leurs faiblesses. Gardez à la pensée les choses que vous jugez dignes d'être appréciées et approuvées. Si vous avez un esprit pénétrant lorsqu'il s'agit de discerner les erreurs des autres, soyez encore plus prompt à reconnaître en eux ce qu'il y a de bon, et à en faire l'éloge. Si vous vous examinez vous-même, vous risquez de découvrir des choses tout aussi critiquables que celles que vous voyez chez les autres. Efforçons-nous donc sans cesse de nous fortifier les uns les autres dans la très sainte foi. Travers à éviter, que nul n'essaie de masquer ses propres péchés en dévoilant les erreurs de quelqu'un d'autre. Dieu ne nous a pas confié une telle tâche. Laissons nos semblables humilier leur propre cœur, afin qu'ils viennent à la lumière de la connaissance de Dieu. Refrénez l'irritabilité, ceux qui se critiquent et se condamnent les uns les autres transgressent les commandements de Dieu et offensent Dieu. Ils n'aiment ni le Seigneur ni leurs semblables. Frères et sœurs, balayons les ordures de la critique, de la suspicion et des plaintes, et ne nous montrons pas irritables. Certains sont tellement susceptibles qu'on ne peut pas leur faire entendre raison. Soyez sensibles quand il s'agit de savoir ce que signifie l'observation ou la violation de la loi. C'est sur ces points-là que Dieu veut que nous soyons sensibles. Ne confondons pas orgueil et sensibilité, vous êtes prêts à vous justifier sous prétexte que vous êtes sensible, que vous ressentez intensément les choses, que vous souffrez beaucoup. Mais j'ai vu que cela ne vous excuse pas aux yeux de Dieu. Vous confondez sensibilité et orgueil. Votre moi domine. Quand il sera crucifié, cette sensibilité ou cet orgueil mourra. Jusque-là, vous ne serez pas un chrétien. Être chrétien, c'est être comme le Christ, c'est posséder l'humilité, la douceur et un esprit calme qui supporte la contradiction sans devenir pour autant fou furieux. Si le rideau trompeur qui vous entoure pouvait être ôté pour que vous vous voyiez comme Dieu vous voit, vous ne chercheriez plus à justifier votre moi, mais vous vous écrouleriez aux pieds du Christ, le seul qui a le pouvoir d'effacer les travers de votre caractère, et de vous apporter son soutien. Nécessité d'une introspection, si, aujourd'hui, tous ceux qui se disent chrétiens, au lieu de parler des défauts des autres, s'examinaient pour voir ce qui, en eux-mêmes, a besoin d'être corrigé, l'état de l'Église serait meilleur. Certains sont honnêtes si cela ne coûte rien. Mais si la dissimulation rapporte davantage, ils oublient l'honnêteté. Or l'honnêteté et la dissimulation ne vont pas de pair. Elles ne peuvent s'accorder car elles n'ont rien de commun. L'une est le vrai prophète de Dieu, l'autre celui de Baal. Avec le temps, où la dissimulation sera expulsée et la vérité et l'honnêteté régneront en maîtresse, ou, si l'on cultive la dissimulation, l'honnêteté sera oubliée. Quand le Seigneur fera le compte de ses enfants, ceux qui sont francs, sincères, honnêtes seront considérés avec satisfaction. Des anges leur préparent des couronnes, et sur ces couronnes constellées de joyaux se reflétera avec splendeur la lumière que le trône de Dieu irradie. Une racine d'amertume, quand vous pensez du mal de vos semblables et que vous vous critiquez les uns les autres, quand vous permettez à la racine de l'amertume de se développer et que vous la caressez, votre influence vous sépare du Christ. Les cœurs se durcissent et résistent au doux esprit de l'unité et de la paix. Rejetez donc tout cela sans délai. Voici mon commandement, dit Jésus, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Prendre Dieu au mot, souvenez-vous que la foi consiste à prendre Dieu au mot. Le Fils de Dieu vous prépare une place dans les demeures d'en haut. Soyez lui reconnaissant pour cela. Ne croyez pas que si vous ne vous sentez pas constamment exalté, vous n'êtes pas pour autant son enfant. Remplissez avec humilité et empressement la tâche qu'il vous a confiée. Profitez de toutes les occasions pour accomplir une œuvre qui fera de vous une bénédiction pour ceux qui vous entourent. Soyez déterminés à faire votre part afin que la place où vous êtes soit celle que Dieu peut approuver et bénir. L'assurance d'être accepté, grâce à la bonté et à la miséricorde du Christ, le pécheur est réintégré dans la faveur divine. Jour après jour, Dieu en Christ supplie les hommes d'être réconciliés avec lui. Il est prêt à faire bon accueil non seulement au pécheur, mais aussi à l'enfant prodigue. L'amour manifesté par sa mort sur le calvaire assure aux pécheurs réception, paix et amour. Enseignez ces choses de la manière la plus simple, afin que l'âme enténébrée par le péché puisse entrevoir la lumière émanant de la croix du calvaire. Je vous donnerai du repos, le Seigneur m'a donné un message pour vous, mais aussi pour d'autres âmes fidèles qui sont troublées par des doutes et des craintes concernant leur acceptation par le Seigneur Jésus-Christ. Il vous adresse cette parole, « Sois sans crainte, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Puisque vous désirez plaire au Seigneur, vous pouvez le faire en croyant à ses promesses. Il est disposé à vous faire entrer dans le havre d'une expérience de grâce, et il vous dit, « Arrêtez, et reconnaissez que je suis Dieu. » Vous avez connu une période d'agitation, mais Jésus vous dit, « Venez à moi, et je vous donnerai du repos. » La joie du Christ dans l'âme est d'une valeur sans pareille. Ils sont heureux parce qu'ils ont le privilège de reposer dans les bras de l'Éternel Amour, lettre 2, 1913.